BFM Business partenaire.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. Saviez-vous que notre flore intestinale, aujourd'hui appelée microbiote, peuplée de bactéries, pouvait en se modifiant être à l'origine de nombreuses maladies? Alessandra Cervino, la fondatrice de la biotech Luxia Scientifique, nous explique comment elle réalise les premiers kits d'analyse de ce microbiote intestinal pour déboucher vers de nouvelles thérapeutiques. Une autre entreprise, plusieurs fois récompensée par le fameux CES de Las Vegas, révolutionne le monde des malentendants en créant la première aide auditive équipée d'un réseau neuronal profond embarqué. Son patron, France, Christophe Aubert, nous la dévoile sur notre plateau. Enfin, troisième invité, Isabelle Gauthier, pédopsychiatre, nous alertera sur les oubliés de la crise Covid, les enfants et ses effets sur leur santé. Microbiote, audition et petite enfance sont les thèmes de Check-up Santé aujourd'hui. Alessandra Cervino, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors, vous êtes à l'origine mathématicienne.
Tout à fait,
oui. C'est rare d'inviter une grosse tête comme vous. Hein.
Gentil.
Vous avez fait votre thèse à Oxford, d'ailleurs, dans le même laboratoire que celui qui a fabriqué le vaccin AstraZeneca.
Oui, tout à fait. C'est Sarah Gilbert qui travaille dessus et le professeur est Adrien Hill, mon directeur de thèse.
Et vous avez d'ailleurs été primé deux fois pour vos travaux de recherche aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Vous dirigez depuis 2018 la biotech Luxia Scientifique. Pourquoi créer cette entreprise?
Alors, c'est vrai que je voulais apporter, en fait, au plus de monde possible, en fait, les solutions diagnostiques qui peuvent émerger, en fait, de l'utilisation de cette technologie qu'on appelle le séquençage génétique. Donc, c'est vrai qu'avec la génétique, s'ouvre tout un tas d'opportunités, notamment à travers cette analyse des échantillons de sel. Donc, ça permet d'analyser, en fait, la composition du microbiote intestinal.
Alors, justement, juste une petite définition du microbiote intestinal.
Alors, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui résident dans nos intestins. Donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est principalement, en fait, des bactéries.
Et donc, et ces bactéries donc, vivent de façon en toute intelligence, les unes avec les autres.
Oui, quand tout se passe bien, voilà.
Quand
on est en bonne
oui.
santé, effectivement, on a ce qu'on appelle une symbiose, c'est-à-dire qu'on a un équilibre qui se fait entre les différentes bactéries qui sont présentes et qui vivent en harmonie avec l'autre. Donc, on a vraiment besoin d'avoir cette population bactérienne, nous, pour vivre, en fait.
D'accord. Et vous parlez donc de diversité, c'est ça?
Tout à fait.
La diversité intestinale.
Oui. Donc, un microbiote sain, c'est un microbiote qui est diversifié. C'est-à-dire qu'on va avoir une population de bactéries qui sont des bactéries très différentes, qui vont avoir des fonctions différentes et qui vont permettre justement d'accomplir toutes ces fonctions à travers cette diversité.
Ouais.
C'est le même concept que la biodiversité dans les systèmes écologiques, en fait.
Et donc, quand on a une perte de diversité, c'est là que ça peut entraîner donc, de nombreuses maladies.
Oui, la perte de diversité, c'est mauvais, en fait. Il y a de nombreuses publications, dont des publications très récentes sur des larges cohortes de plusieurs milliers de patients, qui montrent bien que les personnes qui sont en mauvaise santé ont une diversité plus faible. Et d'ailleurs, c'est chose que nous, on a également démontré avec notre kit sur une population française, où on a effectivement les personnes qui se sont auto-déclarées en mauvaise santé ont 85% 85% d'entre eux ont une perte de diversité.
Donc 85% des gens qui se disent pas en bonne santé ont une perte de diversité.
Oui, tout à fait.
Donc c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, hein, de ces maladies qui viendraient, notamment même les maladies inflammatoires.
Oui, alors les deux maladies où la perte de diversité est la plus importante, c'est effectivement les maladies métaboliques, comme l'obésité, le diabète, et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme par exemple la maladie de Crohn. C'est vraiment ces deux populations où la perte de diversité est la plus importante.
Alors, votre entreprise donc, a reçu une certification ISO. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tout à fait. Alors, c'est vrai que comme on vient du milieu pharmaceutique, on a voulu appliquer en fait les mêmes standards sur cette analyse. Et donc, on a marqué CE, donc on a positionné notre produit en tant que dispositif médical de diagnostic in vitro. Donc, on est une société de diagnostic. Et qu'on a marqué CE et on a mis en place cette année-ci l'ISO, la 13485, qui est en fait une norme qui est un gage de qualité et de bonne pratique finalement en termes de production.
Veritas, quoi.
Oui, exactement.
D'accord. Et en fait, si vous, si vous pratiquez au hasard des analyses, qu'est-ce que vous trouvez si vous prenez la population au hasard? Est-ce que vous trouvez vraiment une grande proportion de perte de diversité ou pas?
Alors, parmi les personnes qui ont fait notre test, aujourd'hui, on a un peu moins de la moitié qui sont quand même en perte de diversité. Donc, on est à 47% des personnes qui sont en perte de diversité.
Pratiquement la moitié.
Oui.
Donc, c'est énorme.
Oui. Et selon Duschko Erlich, qui est un des grands professeurs qui a vraiment été un des pionniers avec toute l'équipe de l'INRA, de Metagenopolis en particulier, ils ont été pionniers sur tout ce qui est analyse métagénomique. Ils considèrent qu'effectivement, un quart de la population française est en perte de diversité, parmi la population saine même.
D'accord, alors les tests, c'est bien, l'analyse, c'est bien. Ça s'adresse à qui principalement? Pour le moment.
Alors, nous, on est vraiment une société diagnostique, donc on développe le diagnostic, et le diagnostic est disponible, en fait, à tout le monde. Donc, on peut utiliser ce diagnostic pour faire de la prévention.
Mais ce diagnostic, il ne sert que si on peut agir par derrière, si on peut faire quelque chose. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué cette perte de diversité, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, quand on a identifié la perte de diversité, on va consulter un professionnel de santé qui va être spécialisé et qui connaît en fait le microbiote intestinal et qui va pouvoir en fait conseiller des compléments alimentaires, donc des prébiotiques, des probiotiques, ainsi que des changements alimentaires.
Un nutritionniste, par exemple.
Oui, tout à fait.
Principalement,
oui. Oui. Et donc, il va pouvoir accompagner, mais de façon beaucoup plus personnalisée.
D'accord. Donc, ça sera donc des, comme vous dites, des compléments alimentaires et aussi quand même peut-être une rééducation. Hygiéno-diététique ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le microbiote est vraiment le reflet de notre hygiène de vie et de notre alimentation. Donc, il faut non seulement apporter des bonnes choses, comme des fibres, des polyphénols, mais il faut également, en fait, arrêter certaines...
D'accord. Et il y a des preuves scientifiques, il y a des retours maintenant sur l'efficacité de ces changements de régime, sur la perte de diversité ?
Oui, alors...
Est-ce qu'on arrive à rééquilibrer cette flore intestinale ?
Tout à fait. Alors, une des études les plus importantes, avait une des premières, qui était une des études pionnières, qui était faite justement en France par Karine Clément, a vraiment montré qu'avec une bonne alimentation, les personnes qui étaient en perte de diversité, on peut, au bout de quelques semaines, déjà rétablir la diversité du microbiote.
Et les gens vont mieux. C'est surtout ça qui compte. Et les gens vont mieux après ce rééquilibrage de...
Ah bah on l'espère,
ouais, oui. On espère. D'accord. Il y a beaucoup de d'entreprises comme la vôtre qui travaillent sur ce... Sur le microbiote, bien sûr, mais sur l'analyse du microbiote.
Ouais. Alors nous, on était les premiers. Donc en 2018, on a sorti Intestin, qui est vraiment le premier diagnostic basé sur la métagénomique.
Ce qui vous a permis de lever des fonds rapidement.
Tout à fait. On a fait une levée de fonds fin 2019. Hein, et on va d'ailleurs en refaire une cette année-ci pour financer nos études cliniques.
Justement améliorer, pour augmenter vos capacités, etc. Mais est-ce que vous voyez une évolution dans vos kits d'analyse ? Pensez à analyser dans le futur d'autres choses ou pas ?
Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs programmes de recherche en cours. Donc, on a effectivement prévu l'année prochaine de mettre sur le marché deux ou trois autres diagnostics qui sont sur des positionnements différents. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment positionné sur la perte de diversité, mais il y a des dysbioses qui sont spécifiques de différentes maladies. Et les prochains diagnostics vont être plus ciblés par rapport à différentes pathologies. Donc, notamment dans la maladie de Parkinson, on travaille beaucoup avec Nantes sur ce sujet.
Eh ben, bonne chance à votre entreprise.
Merci beaucoup.
On va laisser la place à Christophe Aubert, qui est le directeur France de Oticon.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Christophe Aubert, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dirigez la filiale France de Oticon, ça se prononce comme ça, Oticon.
Exactement, parfait.
Qui est la filiale française d'une grande entreprise, qui est danoise et qui est très 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 âgée.
Alors, très âgé, 1904 la création.
C'est pas mal, déjà.
C'est quand même pas mal. Voilà. Non, mais je vous assure.
Dans notre univers de start-up, c'est
tout à fait. Mais âgé, dans la continuité, on a beaucoup évolué depuis 1904. Hein.
Donc, j'imagine.
C'est un groupe aujourd'hui qui fait un chiffre d'affaires de 2 milliards, c'est 16 000 personnes, et vraiment centré sur l'audition. Donc avec des aides auditives.
Avec une grosse filiale France. Avec
une grosse filiale France qui fait partie des top filiales au niveau monde. Centrée donc sur les aides auditives, bien sûr. 85% de notre activité, c'est ça. Mais on fait aussi de l'implant cochléaire, de l'implant ancrage osseux, des produits de diagnostic et des produits aussi de communication qui sont en vogue en ce moment avec le télétravail.
Vous avez été une des boîtes les plus primées au fameux CES de Las Vegas.
On a été primé, on vient d'avoir les résultats de 2021 où on a encore deux nouveaux lauréats. Mm-hmm. En 5 ans, ça fait 12 fois que l'on est
12
primé,
fois.
12 fois qu'on est primé, avec un prix pour la technologie portable, mais aussi un autre prix qui me tient un peu plus à cœur, c'est la rubrique santé, bien-être, hein, mm-hmm. Et donc il y a vraiment une prise de conscience que l'audition, la santé auditive est vraiment important pour bien vivre, bien vieillir aussi.
C'est un véritable enjeu de santé publique, la perte de l'audition, qui est une maladie évidemment physiologique.
C'est une dégénérescence, majoritairement c'est une dégénérescence de l'oreille avec ce qu'on appelle la presbyacousie, avec un vrai enjeu de santé publique, mm-hmm. qui d'ailleurs a été pris en compte il y a 3 ans maintenant avec le gouvernement, où il y a eu la mise en place de la réforme 100% santé, et qui, au 1er janvier 2021, a été mis intégralement en place. L'idée, c'est faciliter l'accès aux aides auditives.
Grâce au 100% de prise en charge.
Voilà.
D'accord.
Hein, donc c'est parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La santé auditive, c'est un isolement, souvent une dépression, et puis souvent...
Un isolement social, oui.
Social, souvent dépression, un vieillissement cognitif accéléré.
Qui peut entraîner une altération de la santé.
Et une démence, dans certains cas. Et
ça représente combien de personnes dans le monde?
On estime... alors, dans le monde...
Dans
le monde, je n'ai pas les chiffres, mais sur la France, on estime à 6 millions de malentendants.
Ah oui,
voilà. Et aujourd'hui, on est un pays qui a bien progressé ces dernières années sur l'adaptation, on est à peu environ 40% des personnes appareillées. C'est-à-dire qu'il y a encore 60% des gens qui n'ont pas franchi le pas de venir à l'aide auditive.
Donc on va acheter des actions Ticon alors.
Vous pouvez, c'est Dement, hein, le groupe Dement.
Ouais. C'est coté en bourse ou
sur la bourse danoise. Et la particularité, c'est que 57% de notre actionnariat appartient à une fondation.
D'accord.
Donc,
alors c'est vrai que vous dites, hein, l'oreille ne suffit pas, vos oreilles écoutent, mais c'est le cerveau qui comprend.
Tout à fait. C'est depuis 25 ans, on a un peu changé notre approche et on s'est vraiment focalisé sur le fonctionnement du cerveau. Comprendre quel est tout le process de compréhension des sons, de
comment pour comprendre votre innovation justement.
Voilà. Ouais. Et donc ce qu'on appelle le brain hearing. Mm-hmm. Bien évidemment, on a essayé de penser différemment, avec toujours sortir un peu des codes des technologies traditionnelles, avoir des vraies innovations de rupture, et toujours ces innovations, on les valide par des tests cliniques. Hein, parce que ce qui est important, c'est l'individu et la valeur ajoutée qu'on va lui apporter avec les aides.
C'est évidemment le résultat, parce que c'est vrai j'ai beaucoup de patients, évidemment, qui portent des aides auditives. On ne dit pas prothèse, on dit aide auditive. Des aides auditives, ils sont un petit peu gênés. Ils les mettent pas souvent, et surtout pas quand dans des atmosphères où il y a beaucoup de bruit.
Voilà. Alors malheureusement, tous ceux qui vous parlent de leurs aides auditives,
non pas les vôtres.
C'est souvent des personnes, ceux qui ont un petit, on va dire un problème, qui rencontrent pas visuellement la satisfaction. Il faut quand même savoir que sur le marché français, on a des études européennes qui s'appellent Eurotrack, 82% des malentendants sont satisfaits de leurs aides auditives. Mm-hmm. Donc c'est peut-être les 18% qui viennent vous voir et surtout qui vous en parlent.
Je n'entends que ceux qui se plaignent. Alors.
Donc les innovations.
Donc votre système innovant.
Voilà. Les innovations.
Qu'on appelle le réseau neuronal profond.
C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que les innovations doivent être aujourd'hui sur des environnements difficiles. Voilà. Et aujourd'hui, on a complètement réinventé l'aide auditive en intégrant pour la première fois dans ce qu'on appelle notre produit Oticon More pour plus en anglais, bien évidemment. Mm-hmm. Voilà. Mais bon, il vaut mieux le préciser. Mm-hmm. On a intégré un réseau neuronal profond. C'est-à-dire qu'on va changer complètement l'approche. Auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? On travaille avec des technologies traditionnelles, on se focalisait par exemple sur la personne qui est en face de moi. Je suis au restaurant, je me focalise là. C'est très bien.
C'était plutôt unidirectionnel.
Unidirectionnel, voilà. Donc c'était bruyant, on réduisait les bruits sur les côtés, et on se focalisait là. C'était très bien, mais sauf que c'est pas la vie normale. Le cerveau ne fonctionne pas avec juste une source unique. Il lui faut l'intégralité du système. Donc aujourd'hui, on a complètement repensé le système, et des études nous ont aidés sur le cerveau pour montrer qu'il faut donner l'intégralité de la scène sonore pour que le cerveau puisse fonctionner normalement. C'est-à-dire s'orienter, analyser où sont les sons, qu'est-ce qui se passe, et laisser la possibilité au cerveau de se focaliser sur ce qu'il a envie d'entendre. Et c'est ce que l'on fait avec Oticon More et ce réseau neuronal profond. Un réseau neuronal profond, c'est la dernière innovation dans l'intelligence artificielle.
D'accord.
C'est inspiré
sur... C'est bien que vous utilisiez l'intelligence artificielle, évidemment.
Mais alors, il y a différents niveaux d'intelligence artificielle. Ça fait plus de 10 ans qu'on est sur l'intelligence artificielle. Là, c'est la dernière innovation. Il s'inspire du fonctionnement du cerveau. Mmh. Et donc, à partir d'une base de données, on a généré 12 millions de scènes sonores pour pouvoir aider le réseau neuronal profond à s'adapter à tous les environnements
à s'adapter, oui.
qu'il va rencontrer et adapter son traitement. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait précédemment, où on était sur du prédictif, c'est-à-dire soit on se focalisait là, soit on avait des environnements sonores qui étaient déjà prédéfinis, quelques environnements sonores, on disait, là c'est un peu bruyant, on va mettre ça. Là, il s'adapte avec beaucoup plus de flexibilité à tous les environnements sonores.
Et évidemment, vos retours cliniques.
Alors, pour les retours cliniques, très positifs. On travaille sur des mesures du cerveau. On s'aperçoit qu'on donne plus d'informations au cerveau, meilleure intelligibilité et surtout sans fatigue supplémentaire. Voilà. Et ce qui est intéressant, on a sorti le produit juste avant les fêtes de Noël. On commence à voir les retours terrain et ça, c'est la meilleure étude pour nous. C'est naturel, c'est clair, c'est presque normal.
Et puis, c'est quand même aussi important, c'est que les aides sont petites, sont quasiment invisibles.
C'est très petit. Hein, donc aujourd'hui, ce sont des produits très petits, discrets derrière l'oreille, qui sont des vrais objets connectés, connectés à votre télévision. Ils vont pouvoir regarder BFM Business avec les aides auditives directement dans les appareils.
Connectés au smartphone. iPad,
voilà, c'est un objet connecté. Ouais. Ils sont rechargeables, comme on peut le voir sur ici.
Ouais.
Donc le soir, vous les mettez et vous le reprenez le lendemain matin. Très bien. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on change complètement le mode de fonctionnement et on change complètement l'image qu'on peut donner d'une aide auditive.
Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme évolution dans le futur ? Peut-être de les implanter ou pas ?
Alors, les implantés, on a déjà des produits implantés.
Ça, ce sont pour les...
C'est pour des pertes auditives vraiment, ce qu'on appelle sévères, profondes, voilà, on arrive à la limite de l'aide auditive. Non, on a encore des évolutions possibles, mais aujourd'hui, et depuis 4 ans, ce que je peux dire, les trois dernières plateformes qu'on a pu sortir, on a une amélioration de la compréhension dans les milieux bruyants qui est assez exceptionnelle. Et ça, c'est le point faible auparavant des auditives, et aujourd'hui avec un produit Oticon, et notamment Oticon More, vous arrivez à avoir une intelligibilité bonne dans les environnements.
Merci beaucoup, j'espère l'utiliser, mais
n'attendez pas trop longtemps.
Merci beaucoup Christophe Aubert, patron France de Oticon. On va à présent accueillir Isabelle Gauthier, qui est pédopsychiatre et présidente de l'Association française des femmes médecins.
BFM Business Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Isabelle Gauthier, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes pédopsychiatre et vous êtes aussi présidente de l'Association française des femmes médecins. Alors juste un mot sur cette féminisation de la santé, c'est pas toujours politiquement correct, mais est-ce que, on sait à la fac qu'il y a maintenant entre 70-75% de gente féminine à la fac de médecine. Est-ce que cette féminisation change un petit peu la donne ?
Alors, je pense que ça va changer la donne. Déjà maintenant, ça la change un petit peu, puisqu'on est à peu près 50-50. Mais dans 10 ans, c'est évident que la médecine se déclinera au féminin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est vrai que les femmes ont une façon de travailler qui est un peu différente. Et d'aborder les problèmes de façon un peu différente.
Mais elle choisit du coup, donc, et c'est vrai qu'à l'internat, elle choisit après des spécialités moins prises par les hommes.
Alors ça, je ne sais pas comment elles choisissent, mais c'est vrai que de toute façon, en règle générale, jusqu'à présent, les femmes ont toujours choisi du côté des soins des femmes et des enfants, beaucoup. Ça c'est une médecin du travail aussi, beaucoup de femmes, médecine scolaire, beaucoup de femmes, gynéco-obstétrique, gynéco, mais la spécialité a disparu.
Et psychiatrie ?
Psychiatrie, pas mal, oui.
Alors justement, si on faisait un petit état des lieux de la psychiatrie en France, je lisais dans un de vos nombreux publications que la psychiatrie, et notamment la pédopsychiatrie, était en disette.
Ah, tout à fait. Alors là, la pédopsychiatrie est le parent pauvre de la psychiatrie, qui est elle-même en grande difficulté. Vraiment en grande difficulté. Ça fait 40 ans qu'on le dit et ça ne s'améliore pas.
Pourtant, il y a beaucoup de psy, non ?
Je pense qu'il y a un problème à la fois d'organisation structurelle et organisationnelle qui fait que il y a beaucoup de difficultés de prise en charge, en particulier en pédopsie.
Alors, pour revenir à cette crise Covid qui a touché 2020 et qui va peut-être encore toucher un peu 2021, et son lot de maladies, de stress, de décès évidemment, on a oublié un petit peu une certaine catégorie de la population, les enfants.
Eh ben, on les oublie toujours, les enfants, à vrai dire. C'est ça le problème, c'est pour ça que la pédopsie...
Parce qu'ils n'ont pas été très touchés par... directement par la maladie elle-même.
Non, mais c'est les premières victimes des violences intrafamiliales, parce qu'il y a vraiment une explosion des violences dans la famille. Et du coup, c'est les enfants qui trinquent le plus, c'est le cas de le dire, puisque en même temps, il y a les parents qui peuvent accélérer la consommation d'alcool, la consommation de drogue. Donc, il y a beaucoup de violences.
Et cette violence a augmenté pendant le confinement ?
Ah oui. Ah oui, ça a explosé. Et ce matin, j'ai reçu des chiffres, parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres. Et il n'y avait pas d'études épidémiologiques jusqu'à présent sur les violences faites aux enfants, les maltraitances infantiles. Et le professeur Yann Mikhaïlov m'a envoyé des documents très, très intéressants qui montrent que l'impact du Covid, c'est un boomerang. Le fait que les enfants n'aient pas été en classe, donc les signalements n'ont pas été faits, puisque les signalements sont faits à 40% par les écoles. Le fait que les CMPP, les soins ambulatoires aient été fermés.
Vous parlez d'encabanement.
D'encabanement, c'est parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que même dans les familles qui sont à l'aise dans un espace, la cohabitation avec des enfants qui ne vont pas à l'école, c'est extrêmement difficile. Il faut en même temps gérer le télétravail, en même temps gérer les enfants, c'est très compliqué. En général, ça tombe sur le dos des femmes, d'ailleurs, il faut quand même bien le dire, parce que la répartition des tâches, elle n'est pas toujours aussi idyllique.
Donc, en fait, chez les enfants, il y a deux choses. En fait, il y a les agressions physique, les violences physiques, la maltraitance. Il y a aussi l'effet indirect de cette crise Covid qui a entraîné un stress qui se manifeste d'ailleurs de différentes façons.
Alors, les enfants petits et surtout entre 7 et 12 ans parlent beaucoup plus avec leur corps qu'avec des mots. C'est-à-dire qu'ils somatisent, ils ont mal à la tête, ils ont mal au ventre. Puis, ça peut être des somatisations tout à fait bénignes, des petites pathologies bénignes. On n'y prête pas attention, parce que c'est pas rien, c'est rien. Un petit doliprane, ça va être guéri. Ouais. Or, en fait, c'est déjà un signe d'appel auquel il faut être vigilant. Parfois, c'est beaucoup plus grave. Il y a des décompensations d'asthme, des décompensations aussi de pathologies cutanées.
Cutanées, bien sûr. Oui, eczéma, etc.
Ouais. Eczéma, oui. Alors là, j'ai eu des réponses des hôpitaux. Effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de bronchiolites. Bronchiolite.
Oui, les gens étaient masqués, donc il y a eu moins de bronchiolite, moins de diarrhée.
Ils n'allaient pas en crèche, donc il n'y avait pas ils n'allaient pas à l'école, donc moins de bronchiolite, moins de petites viroses, moins de gastro-entérite, moins de choses comme ça.
Peut-être aussi, vous parliez de stress, peut-être aussi le stress lié aussi à la communication entre les parents eux-mêmes, qui a pu se dégrader.
Vous avez tout à fait raison, parce qu'effectivement, les gens sont habitués à partir le matin et se retrouver le soir. Bon, c'est sympathique, on se raconte sa journée, tandis que là, on n'a rien à se raconter, si ce n'est qu'on doit travailler chacun de son côté, avec les enfants au milieu, et que c'est très compliqué.
Oui.
Très compliqué.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Aller voir son psy, son pédopsy ?
Déjà, il faut essayer de se parler gentiment.
Ouais.
Ça devient compliqué de se parler gentiment parce que tout le monde a peur. L'horrible, c'est que on ne sait pas comment ça va finir, mais il faut savoir que ça aura une fin. C'est vrai que
il faut laisser l'espoir du bout du tunnel.
Et puis alors, il y a peut-être une chose à faire. Moi, c'est ce que je dis à tous mes patients déprimés. Tous les jours, un petit projet sympa, un petit plaisir sympa. Faire des gâteaux avec les enfants, inventer tous les jours un truc qui amène pour le lendemain quelque chose de nouveau. Je crois que
peut-être aussi avant peut-être d'aller chez le pédopsie, peut-être d'aller chez son médecin généraliste, donc qui peut orienter lui-même.
Tout à fait. Alors il y a eu un gros problème avec la communication qui a été hospitalo-centrée, donc il y a eu des difficultés d'accès aux médecins. Il faut reconnaître que les médecins n'étant pas équipés aussi ont eu quelques difficultés à se mettre au diapason. Maintenant c'est réglé. Il faut savoir, vous pouvez aller chez votre médecin sans problème. Tout est.
Et c'est vrai que les institutions aussi n'ont pas beaucoup communiqué.
Non. Mais ça, c'est l'habitude des institutions d'être un peu bavardes.
Bon, très bien. Donc, on espère que que cette situation va s'arrêter. Hélas, la maltraitance ne va pas s'arrêter avec la fin de la crise.
Non,
elle
mais
est là, elle existe.
Elle est là, elle existe. En revanche, on va avoir, je pense, des outils d'épidémiologie qui vont mettre le nez vraiment là où il y a les problèmes, et qu'avec ça, déjà, on s'est aperçu qu'il fallait vraiment tous travailler ensemble. C'est pour ça que l'association des femmes médecins est très très contente de pouvoir réunir tous les professionnels de santé. Des gynécos, des pédiatres, des psychos, des pédopsychiatres, des psychologues, enfin tous ces professionnels.
Et puis surtout alerter. On est face, quand on doute de ces maltraitances.
Ouais.
Isabelle Gauthier, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr, dans cette émission. C'est la fin de cette émission. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.